Bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux que j'ai déjà vus ce matin. Donc je vais commencer par remercier nos sponsors sans qui une journée comme ça d'échange dans la communauté ne serait pas possible. Bon, moi j'ajoute mon sponsor à moi parce que voilà, je suis bien malade aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je risque de me moucher pendant la conférence. J'en suis désolée et j'espère que vous serez indulgents, que je ne peux pas forcément trop porter ma voix. Mais je vais essayer d'assurer le service quand même. voilà. Alors, de quoi je vais vous parler? Donc je vais vous parler du retour d'expérience de l'équipe dans laquelle je suis, l'équipe Cuzzle. Je vais vous parler de ce qui marche pour nous en termes d'agilité. Je ne vais pas vous donner des dogmes, des recettes magiques, déjà parce que je ne crois pas que ça existe. Donc du coup, si vous êtes venu pour chercher des recettes magiques qui vont marcher dans tous les cas, enfin, je suis désolée, c'est pas le bon endroit. Je vais pas vous expliquer des choses sur Scrum, sur Kanban. C'est pas ce que je vais faire là. Je vais vous parler de ce qui marche pour nous. Alors, je ne fais pas ça par pur ego. Hein. Je pense que même si les recettes ne sont pas applicables en l'état, il y a probablement des choses dans ce que je vais vous dire qui vont pouvoir vous inspirer pour être adaptées à votre contexte et qui vont marcher pour vous. Mais ce sera à vous de faire le travail, de voir comment adapter ce que moi je vous dis et voir comment ça peut vous aider dans vos contextes à vous. Le contrat est clair pour tout le monde? Ok. Donc qui je suis? Donc je m'appelle Emilie Esposito. J'ai commencé ma carrière en tant qu'architecte fonctionnel chez France Télécom, enfin Orange Labs maintenant. J'ai commencé à faire de l'agilité un petit peu sans savoir. Puis ensuite je suis devenue consultante agile. Là maintenant ça fait à peu près 12 ans que je fais de l'agilité, dont 7 ans en tant que consultante. Dans plusieurs boîtes, j'ai commencé en étant Scrum Master, puis j'ai tenu des rôles de Product Owner, de Coach Agile. J'ai en fait vécu l'agilité dans des contextes très différents grâce à ces missions de conseil. J'ai fait des petits projets, des gros projets, 3 personnes, 75 personnes, des projets qui durent 6 semaines comme des projets qui durent plusieurs années. Des projets innovants comme des projets legacy, des petites boîtes, des grosses boîtes. Et du coup, j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses en faisant face à des difficultés, en prenant des murs. Donc, du coup, bah, j'en ai tiré des enseignements. J'ai aussi eu beaucoup de frustration, en fait, parce que quand on est consultant agile, c'est nous qui sommes sur le terrain, mais les missions, elles ont été vendues avant par un commercial. Un commercial qui vend l'agilité, c'est facile de la vendre. Aussi parce que les clients veulent de l'agilité facile à appliquer, des trucs un peu prêt-à-porter, clés en main. C'est des choses qui ne marchent pas très bien. J'en ai parlé dans ma session de ce matin sur le cargo culte agile. Et du coup, moi, j'avais une grande frustration, en fait, quand j'étais consultante agile, c'est que je me retrouvais obligée de faire de l'agilité au lieu d'être agile avec les équipes. Je voyais bien que ça ne marchait pas, mais je n'avais pas la latitude pour faire autrement. Aujourd'hui, j'ai de la chance. Je suis dans l'équipe Cuzzle, l'équipe dont je viens de vous parler. C'est une équipe dont je suis à la fois le product owner et le facilitateur. J'ai de la chance parce que j'ai l'autonomie de faire l'agilité comme je la conçois, comme j'ai toujours voulu la faire. C'est ça que je viens vous raconter aujourd'hui. Alors, ce qui marche pour nous, en fait, je sais que ça ne va pas marcher forcément pour tout le monde parce qu'on est une équipe qui est dans un contexte un petit peu idéal, même beaucoup idéal. Donc l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est une société de services qui développe des sites web pour des grands groupes et donc qui a voulu diversifier sa stratégie en créant un produit logiciel. Donc en étant à la fois éditeur de logiciel et prestataire de services, on va dire. Notre produit, c'est un enjeu majeur pour l'entreprise. Et la chance que j'ai eue, qu'on a eue, c'est qu'on est dans une entreprise où la direction a dit « Ok, il y a des enjeux majeurs, on les a partagés avec eux, donnons-leur les moyens de s'organiser pour les atteindre. Laissons-les s'organiser eux-mêmes pour atteindre les objectifs, c'est les mieux placés pour savoir comment faire. Donc ça, je sais que je suis une grosse vénarde parce que ça n'arrive pas forcément souvent. on n'a pas spécialement de compte à rendre, on n'a pas de process dans lequel se caler, on n'a pas de reporting préformaté, etc. Alors on a des points de rencontre avec la direction, ils partagent avec nous des enjeux de l'entreprise et donc des enjeux pour notre produit, mais on n'a pas, on va dire, on définit avec eux ces enjeux, on est partie prenante et il n'y a pas de notion de bâton et de carotte, quoi. Quelque part, on est dans le même bateau. Une autre chose qui fait qu'on a beaucoup de chance, c'est que quand on commence à faire de l'agilité dans une équipe, souvent, on amène de l'agilité dans une équipe existante. Et ce n'est pas toujours facile. Nous, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a, comme on crée le produit, on a créé une équipe en intégrant dès le début l'ADN agile. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on veut construire une équipe qui doit être agile parce qu'on est un produit nouveau, on va forcément devoir fonctionner un peu en mode start-up, on va devoir apprendre ce qu'on va mettre dans le produit petit à petit. Donc on a besoin par essence d'être agile. Et bah, prenons des gens qui ont ce mindset-là, qui vont être capables de travailler d'une façon agile facilement. Des personnes qui vont partager finalement le système de valeur de l'agilité. Et donc on nous a donné une autonomie d'organisation. Donc, je sais que je suis une grosse vénarde. Je pense malgré tout qu'il y a des choses qu'on fait qui peuvent être récupérées dans d'autres contextes. J'espère que vous allez trouver des choses qui vont vous inspirer. Alors, comment on fonctionne ? Aujourd'hui, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas vraiment de méthode. Enfin, non, on n'a pas de méthode. On n'utilise pas une des méthodes officielles, une des méthodes agiles officielles. C'est-à-dire qu'on ne fait pas Scrum, on n'est pas en Kanban, on est un peu tout ça à la fois et rien du tout. c'est-à-dire que les deux valeurs qui nous guident dans notre choix d'organisation du travail, c'est le pragmatisme, on fait les choses dont on a besoin, et l'amélioration continue. On essaye des choses, et puis si ça marche bien, ben on garde, et si ça ne marche pas, on change. La seule pratique en fait, que j'ai imposée au départ, c'est la rétrospective. Parce que pour moi, elle permet d'introduire après toutes les autres pratiques dont on a besoin. Donc, c'est-à-dire que, alors, si à un moment j'emploie des termes que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à lever la main, demander, parce que s'il n'y a pas de honte à ça, on n'est pas tous forcément au même niveau sur l'agilité et il faut bien commencer un jour. Donc, n'hésitez pas, je répondrai volontiers. Donc, rétrospective, ça va ? Ouais, ok. La seule pratique de départ pour moi qui était obligatoire pour l'équipe, c'est la rétrospective. Et c'est ce qui nous a permis, en fait, de façon régulière, de nous demander bah, est-ce qu'on a un besoin, en fait, est-ce qu'il y a des choses, on a des manques en ce moment, bah, il faut qu'on crée du coup la pratique ou l'outil qui va nous aider à résoudre ce problème-là. Donc en gros, on a construit de façon itérative et incrémentale notre méthode. On l'a fait évoluer régulièrement. On n'hésite pas à ajouter des choses. Quand elles sont plus d'actualité, quand on se rend compte que ça ne marche plus. C'est normal, en fait, dans la vie d'un projet, le contexte évolue avec la vie du projet. Des choses qui marchent à 4 ne marchent plus quand on est 12, par exemple. On ne peut pas garder les mêmes façons de travailler ensemble. Et donc, y a des moments où il faut savoir se débarrasser des choses qui ne marchent plus et éventuellement les faire évoluer si ça a lieu d'être. Du coup, l'avantage, c'est que c'est une méthodologie qu'on pourrait dire, enfin une méthode de travail qui est très lean au sens maigre. Elle ne contient que ce dont on a besoin. On a comme pratique que ce dont on a besoin. On n'a pas tout un socle de pratiques qui ne nous servent pas forcément. Donc c'est pratique en fait quand on a un nouvel arrivant dans l'équipe. Parce qu'il y a moins de pratiques à partager avec lui que ce qu'il peut y avoir dans d'autres équipes où finalement le corpus de règles de fonctionnement est assez énorme. Nous, c'est assez simple finalement la façon dont on fonctionne parce que on a comme méthode que ce dont on a besoin. Par contre, l'inconvénient de ça, c'est que quand un nouveau arrive, on ne peut pas lui dire « Bah tiens, alors tu vois, on travaille en Scrum, donc tiens, lis le bouquin et tu sauras comment on travaille. » Notre méthode, il n'y a pas de bibliographie en fait, à laquelle se reporter pour comprendre comment on travaille quand il y a un nouvel arrivant en fait. Donc c'est important de bien documenter la méthode qu'on utilise et d'avoir une documentation qui est à jour. Parce que documenter, c'est une chose, avoir de la documentation à jour, enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est souvent un peu plus un challenge. Alors comment on fait? Déjà, pour nos rituels d'équipe, parce qu'on en a, on fait des rendez-vous dans un agenda partagé, et surtout dans le rendez-vous, on décrit le cadre de l'atelier, de la réunion. C'est-à-dire on se dit quel est l'objectif et comment ça fonctionne, ce qu'il faut avoir éventuellement préparé avant, etc. Donc quand un nouveau arrive, déjà on va lui partager l'agenda et on va lui expliquer les différents rendez-vous, ça permet de poser une partie du cadre. On documente nos décisions dans un wiki, dans Confluence. Donc ça permet aussi d'avoir une traçabilité. Et c'est très pratique en plus quand à un moment on veut remettre en question une règle, etc., de pouvoir se dire, et ça on a pris cette décision-là à tel moment parce que, et en fait aujourd'hui le contexte est différent, donc c'est bon, on peut la changer, enfin c'est normal qu'on veuille la changer en fait. C'est assez pratique au-delà de l'aspect partage pur. Et puis on a, alors issu des rétrospectives, on a des règles de fonctionnement d'équipe. Par exemple, il y a quelque chose qui a beaucoup varié au cours du projet, c'est l'heure des stand-up. Parce que au début du projet, il y avait deux des développeurs qui étaient à mi-temps sur d'autres projets du groupe. Ils n'étaient pas tout le temps avec nous et c'était compliqué de trouver un horaire fixe auquel faire les stand-up. Donc on avait défini une règle à l'époque qui était dès que tout le monde est disponible et au plus tard à 17h. Voilà, c'était une règle qui valait ce qu'elle valait. On s'était même doté d'un outil pour dire si on était disponible ou pas à un moment donné. Un petit truc qu'on avait développé sur la base de notre produit parce qu'on aime bien le côté eat your own dog food. On est les utilisateurs de ce qu'on produit, ça nous permet de l'améliorer. Donc on avait commencé comme ça. Puis après, on a changé. On l'a mis là récemment, on a essayé de le faire le matin. Hein. Et puis le matin, on a des gens qui arrivent à 9h comme des gens qui arrivent à 10. Puis des gens qui oublient parfois d'arriver parce qu'on a fait un apéro la veille. Enfin, donc ça marchait pas très bien. Donc on a dit, on va le faire à 14h. Puis à 14h, on attendait que tout le monde soit là. Et en général, ça finissait par être à 15h30, voire qu'on ne le faisait jamais. Et du coup, on a dit non, mais alors maintenant on va le faire à 14h, mais on commence même s'il n'y a pas tout le monde. Ok, voilà. Donc on fait évoluer nos règles, et en fait, ça ne nous pose pas de problème de se dire on essaye des choses, et puis on constate dans les rétros que ça ne marche pas, on fait comment? On change, ok, on change, mais on le trace. Et je dirais que c'est un petit peu récursif, c'est-à-dire qu'au début, la liste des règles de fonctionnement de l'équipe, on l'avait sur un poster craft qu'on avait collé au mur. Donc quand il y avait un nouveau qui arrivait, on allait lui expliquer, on lui montrait ce poster, on lui expliquait toutes les règles. Sauf qu'après 2 ans, le poster craft, déjà, il avait doublé de taille, enfin, il prenait tout un mur de placards. On a même colonisé les placards parce qu'on n'a plus assez de place pour afficher sur les murs. Donc quand une règle n'était plus valable, je la barrais, puis j'allais réécrire à la fin du papier craft la nouvelle règle. Enfin, ça devenait brouillon, c'était pas agréable à regarder. Et je crois beaucoup au fait que le management visuel, il doit avant tout être agréable et fun à utiliser, sinon ça devient plus une contrainte qu'autre chose. Donc c'est arrivé cette semaine, en début de semaine, ça m'a pris, j'ai demandé à l'équipe si c'était OK. J'ai décollé ce papier craft et j'ai créé un fichier dans notre drive en fait, partagé, où j'ai mis les règles qui me paraissaient encore valables. J'ai demandé à l'équipe de vérifier que c'était OK, j'en avais pas oublié. Et j'ai surtout rajouté une colonne encore valable, point d'interrogation. Non, pardon, à supprimer, point d'interrogation. Et en fait, la règle que j'ai proposée, c'est quand quelqu'un voit une règle qui lui paraît plus adaptée ou qui n'est plus appliquée. Alors à ce moment-là, il va mettre ses initiales dans la colonne et à partir de 3 personnes qui ont mis leurs initiales dans la colonne, ils ont le droit de supprimer en fait. Et ils avertissent le reste de l'équipe que cette règle a été supprimée. Donc c'est tout neuf, je ne peux pas vous faire de retour d'expérience dessus si ça marche, si ça ne marche pas. Mais voilà, c'est typiquement pour décrire nos règles de fonctionnement qui évoluent, on a un outil qui lui-même évolue au cours du projet. Donc voilà, donc c'est super important de bien documenter la méthode quand on fait une méthode sur mesure, parce que sinon c'est difficile pour un nouvel arrivant de pouvoir s'intégrer et faire partie prenante de l'équipe. C'est important quand on a l'objectif de grandir, et nous c'est notre cas, on a déjà beaucoup grandi et on va le faire encore. C'est important de permettre à des nouveaux de rentrer dans l'équipe à part entière et pas avoir un clan des anciens et le clan des nouveaux. Sinon, ça ne peut pas fonctionner sur la durée. Alors, je vais être obligée de vous parler un petit peu du produit, parce que les spécificités du produit ont impliqué des spécificités sur notre équipe. Moi, je crois beaucoup que le produit a un impact sur la forme de l'équipe, et comme la forme de l'équipe a un impact sur le produit. Enfin, c'est des vases communicants un petit peu. En l'occurrence, donc notre produit à nous, c'est un back-end installable. Donc c'est un enabler technique. Les utilisateurs, c'est des développeurs, pour faire clair. Et en fait, ça a un impact majeur. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a l'adresse du site. En fait, la particularité du coup d'un projet agile sur un produit très technique, c'est que moi, en tant que product owner, même si j'ai fait une école d'ingénieur et que j'ai un background technique solide, je ne me sens pas légitime pour définir des user stories, pour les spécifier, quand les user stories, c'est des choses comme disposer de failover, par exemple. Comment je spécifie le failover? C'est quoi les tests d'acceptance du failover? Je me sens bien incapable en fait de spécifier ça. Du coup, ben, ça a des impacts en fait sur la façon dont on gère ce rôle de product owner. Alors comment on fait? On a splitté le rôle de product owner entre plusieurs personnes. Donc, déjà, on a au niveau de la direction ce qu'on pourrait appeler le product owner stratégique, donc qui va définir en fait les enjeux en fait. Comment ce produit va servir la stratégie de l'entreprise. Et du coup, ben, par exemple, un enjeu, ça va être, il faut qu'à telle période, on puisse aller parler à des prospects et faire des démonstrations de façon à avoir des premiers contrats commerciaux. Voilà, ça, c'était un des objectifs qu'on avait. Du coup, après, l'équipe, en fait, s'organise pour créer un périmètre qui permet de servir ces enjeux. Donc, on fait en fait des ateliers de story mapping pour en fait construire notre backlog qui vont permettre de servir ces enjeux-là avec ces dates-là. Si on se rend compte que l'objectif ne nous paraît pas tenable, on le dit et on en discute avec la direction et en fait on fait bouger les lignes. Alors, vous allez me dire, ok, sympa, tu as la direction qui définit en gros la roadmap à grosse maille, tu as l'équipe qui fait ton backlog et qui le priorise, etc. Et toi, tu es producteur, mais tu fais quoi en fait? Alors, ce que je fais au quotidien, c'est que finalement je facilite cette gestion du rôle de product owner entre toutes ces personnes-là. Je m'assure que les objectifs que les objectifs que la direction envisage sont réellement tenables en impliquant l'équipe dans la question sur la faisabilité. J'anime, comme je vous disais, par exemple, des ateliers de story mapping pour aider l'équipe à construire le backlog. Et je suis vigilante au quotidien qu'on respecte bien les priorités qu'on s'est données. Et je pointe du doigt quand, de mon point de vue, on est en train de faire bouger les priorités pour voir si c'est quelque chose de voulu ou quelque chose de subi, en fait, un espèce de glissement qu'on peut avoir quand on pilote de façon itérative et incrémentale. Des fois, si on ne fait pas attention, on peut s'éloigner un petit peu de la vision. Donc, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui joue ce rôle un petit peu de phare, qui regarde un petit peu d'un peu plus loin et qui va dire. Là, on n'est pas en train de faire, on est en train de s'éloigner un petit peu de ce qu'on avait dit qu'on voulait faire. Est-ce que c'est quelque chose d'assumé? Et dans ce cas, tant mieux, et statuons dessus, exprimons-le. Ou alors, est-ce qu'il faut qu'on corrige le tir? Et dans ce cas-là, on le fait. Je surveille un petit peu l'heure. Donc, en gros, moi, je suis plus une facilitatrice de PO. C'est pour ça que je dis que je suis PO slash facilitateur de l'équipe. Alors, du coup, comme tout le monde dans l'équipe joue le rôle de product owner, et que notre produit c'est un produit technique, il est très important qu'au-delà de la propriété collective du code, qui est un principe bien connu dans le monde du développement, il est super important pour nous qu'il y ait une propriété collective de l'architecture. Alors, c'est un enjeu fort d'ailleurs, c'est un enjeu fort pour nous de faire un produit d'une haute qualité parce que le groupe dans lequel on travaille, dont est issu notre produit, va être le premier intégrateur de ce produit-là. Nos utilisateurs, c'est nos collègues en fait. C'est-à-dire que si ça marche mal, ben en fait, c'est nos collègues qui vont en pâtir. Et puis, dans un premier temps, c'est nous qui faisons le support aussi. Donc, on a tout intérêt à se doter de la qualité et des outils pour s'assurer de la qualité qui vont bien. Donc, en fait, la notion d'avoir une architecture évolutive, stable, etc., bah, c'est quelque part c'est une question de survie pour nous, c'est hyper important. Donc, ça rend encore plus important cette notion de propriété collective de l'architecture. Alors, comment on fait? Alors, déjà, on a un backlog visuel des sujets de conception. C'est quoi? On a un poster au mur où tout le monde est libre d'aller poser un post-it idée nouvelle ou un post-it problème. Donc, problème, c'est le dernier en date, ça a été le process de release est super chiant. Ok. On en a parlé et du coup, on a dit ah ben, il faut maintenant qu'on est à un niveau un peu plus industriel, on est en train de préparer notre V1. Il faut qu'on pose notre process de release. Il faut qu'on retravaille sur notre CI. Au début, on avait un truc qui marchait jusque-là, mais avec la multiplication des projets, etc., ça marche plus très bien. Ben, il faut qu'on prenne du temps pour le faire. OK, et on l'a intégré dans notre backlog. Les idées nouvelles, c'est tiens, ça serait bien si on en rajoutait cette fonctionnalité-là. Cette partie-là, elle est un peu crapive. Ça serait bon de la reprendre. C'est un peu crado comment c'est fait. On l'a fait un peu à la va-vite. Où ça n'a plus vraiment de sens de le faire comme ça maintenant, refaisons-la. Et en fait, l'objectif, c'est qu'on en discute tous ensemble et on voit si c'est pertinent ou pas. Et si c'est pertinent, ben, on rajoute les sujets dans notre backlog. On fait des ateliers de conception en groupe très réguliers. En fait, une estimation comme ça, on fait à peu près 30% du temps de l'équipe, c'est de la conception en groupe. À peu près un tiers de notre temps. Alors, moi, c'est la première fois où je vois ça dans un projet. En fait, ça peut paraître énorme comme ça. Mais en fait, comme je vous disais, comme l'architecture, c'est un sujet super important pour nous, ben, voilà, on pense que c'est une bonne chose de le faire. Et surtout, on documente nos décisions d'architecture. Bah, comme je disais tout à l'heure, notamment alors, pour pouvoir les partager avec des nouveaux plus facilement, pour expliquer bah, notre architecture en ce moment, c'est ça. Mais aussi parce que quand on revient sur un bout de code plusieurs mois plus tard, des fois on se dit, mais pourquoi on a fait comme ça? En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Et en fait, c'est bon de pouvoir se reporter au compte-rendu de l'atelier qui a produit la décision pour se dire ah ouais, mais il y avait ce truc auquel on n'avait pas pensé tout de suite et au final on a corrigé le tir et c'est pour ça qu'on a fait ça. Ok, donc si on fait évoluer, il faut le prendre en compte. Enfin voilà, c'est très important pour ne pas réinventer la roue dans le projet en fait, c'est-à-dire se retaper les mêmes problèmes plusieurs fois, ce serait dommage. Et puis, il faut, donc pour partager cette propriété collective, ben, cette architecture, il faut prendre le temps d'intégrer les nouveaux. Parce que de la même façon qu'il faut prendre le temps de les intégrer sur la méthode, c'est hyper important de prendre le temps de les intégrer, de leur apprendre, de leur transmettre cette architecture-là pour qu'ils puissent se l'approprier eux aussi et faire partie intégrante de l'équipe, que ça devienne leur architecture à eux aussi. Donc ça, bah, forcément la documentation ça aide, mais surtout nous ce qu'on fait c'est qu'à l'arrivée d'un nouveau, on commence par faire un atelier d'architecture au tableau blanc. On a un espace en fait, on a gardé dans l'open space un espace assez grand devant un tableau blanc pour qu'on puisse tous se rassembler en ramenant des chaises. Et donc quand il y a un nouveau qui arrive, on se pose là et le précédent nouvel arrivant présente l'architecture au tableau blanc, au nouveau, et qui peut du coup poser ses questions et s'ensuit en général une discussion très intéressante à base de mais pourquoi vous avez fait ça comme ça? Et puis il y a des choses qu'on n'avait pas forcément vues et du coup on se dit ah bah tiens, idée nouvelle, ça vaut peut-être le coup de prendre ça en compte et on en discutera dans un atelier de conception. Et en fait c'est ce qui fait que, comme je disais, notre équipe elle a beaucoup grandi. Alors, on est passé de 4 à 12 personnes en moins d'un an. dont 9 développeurs architectes. Et en fait, on est arrivé à garder cette propriété collective de l'architecture. D'accord. par contre, on a dû faire évoluer beaucoup nos méthodes, en fait, parce que ce qui marche à 4 ne marche pas à 12. Quand on était 4, ben, on n'attendait pas nécessairement les rétrospectives pour parler des problèmes qu'on avait d'organisation. Quand on avait un manque, qu'on se disait « Ah bah tiens, ce serait bien qu'on fasse ça », on n'attendait pas le moment de la rétrospective pour le faire. Voilà, on en parlait à la volée et ce n'était pas un problème. On pouvait faire tous les ateliers de conception tous ensemble, on était 4, ça allait. Quand on est 12, c'est tout de suite plus compliqué de faire ça. On peut pas être tout le temps à toutes les réunions tous ensemble, ça marche pas aussi bien. Donc il y a à la fois, c'est parce que la taille de l'équipe évolue, mais aussi parce que notre contexte évolue. Au début, on était un petit peu en vase clos, c'est-à-dire que dans la phase vraiment d'innovation, de R&D pure, où on faisait beaucoup de POC, enfin de proof of concept, ça va POC, ouais. On n'avait pas de communication vers l'extérieur, donc on était un petit peu tranquille en fait sur ce qu'on faisait au quotidien. Et puis après, on a commencé à communiquer vers l'extérieur. On a mis notre code sur GitHub, puisque on est en open source, donc on avait déjà un regard de la communauté. On avait des actions de communication à faire, on a commencé à aller à des salons, on a commencé à avoir un peu de support, donc nos activités se sont multipliées. Et donc bah forcément, quand on avait plus de responsabilités, on avait besoin de changer nos méthodes de fonctionnement pour faire face à ces nouvelles responsabilités. Alors comment on a fait ça? Bah, comme je vous disais, on s'est servi des rétrospectives. Donc les rétrospectives, en fait, ça nous a permis de faire évoluer notre méthode au fur et à mesure. Je vais prendre le cas particulier des ateliers de conception parce que c'est quelque chose pour nous qui est très important. Au début, donc quand on n'était que 4, on avait commencé par se dire on va faire un atelier de conception de 2 heures toutes les semaines. Et donc on le faisait, c'était super. Mais en fait, donc je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, on avait 2 personnes qui étaient à mi-temps et plus une à plein temps. Donc en fait, c'est comme si on avait 2 plein temps de dev. Et on faisait 2 heures de conception par semaine, et donc on produisait plus de conception que ce qu'on était capable de réaliser à ce moment-là. On faisait du stock, et ça, c'est pas bon de faire du stock. C'est parce que bah, potentiellement on travaillait pour rien, les choses allaient peut-être changer, donc c'était pas la peine. Du coup, on s'est dit, ok, on va plutôt passer à un atelier de conception toutes les 2 semaines, et si à un moment on a besoin de faire un atelier en plus, alors on va faire un atelier non programmé. Comme ça, voilà, qui est pas dans le cadre du un tous les 2 semaines, on fait un atelier non programmé. Et puis si à un moment ben, on a besoin d'en faire trop, on en reparlera en rétro. Et ça a bien fonctionné comme ça pendant quelques temps, puis l'équipe a commencé à grandir, et à ce moment-là, on était capable de traiter de plus en plus de sujets en parallèle, donc on avait de plus en plus de besoin de faire de la conception, donc on avait de plus en plus d'ateliers non programmés. Et des ateliers où à l'époque on allait tous, donc en fait on passait notre temps en atelier de conception presque. Jusqu'au jour où en rétrospective, Anthony, donc un des développeurs de l'équipe, dit, pose un post-it, on fait trop de réunions. Bon, ça interpelle. Alors nous, dans notre équipe, ce qu'on fait, c'est que pour prioriser les différents sujets qui sont relevés en rétrospective, chacun dispose de 3 barres qui va les répartir sur les post-it, enfin sur les sujets dont il veut parler. Et ce post-it-là de « on fait trop de réunions » se retrouve couvert de barres. Apparemment, c'est un sujet qui était partagé par beaucoup. Donc on en parle. Donc Anthony nous explique que c'est pas que les réunions sont inintéressantes, au contraire, elles sont efficaces, elles durent pas trop longtemps, elles produisent des choses, on a des comptes rendus. Mais en fait, il y en a tellement que j'ai plus le temps de coder. Et moi, ce que j'aime faire, ce que je veux faire, et puis pour que le produit avance, bah, il faut bien qu'on code à un moment, quoi. Comment on fait? Et donc, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il fallait qu'on fasse un deuil. Il fallait qu'on fasse le deuil de pouvoir tous concevoir toute l'architecture. C'était plus possible, ça n'était pas tenable en fait. Donc on a réfléchi à comment on pouvait faire ça. On a décidé de faire des groupes de travail volatiles. Volatiles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas figés dans le temps. C'est en fonction des sujets qu'on a à traiter dans notre roadmap. On va créer un groupe de travail, par exemple, ben, sur le failover, je vous en parlais tout à l'heure, sur le back-office, sur. Enfin voilà. Donc ça, on s'est fait un poster dans notre open space pour dire ben, sur tel groupe de travail, c'est telle personne et telle personne qui sont intéressées, enfin, qui suivent le sujet de plus près. On peut s'y rajouter, s'en enlever, enfin, c'est voilà, y a pas de, c'est auto-organisé. Et donc du coup, le groupe de travail eh ben, fait ses ateliers entre eux, mais quand ils ont besoin de faire un atelier de conception, ils le disent dans l'open space en disant on va faire un atelier sur tel sujet. Ils le disent aussi, ah oui, on crée un channel Slack propre au sujet, donc par exemple Kuzzle BO pour le back-office, Kuzzle Cluster, enfin voilà, on en a un certain nombre. Donc on annonce sur le channel Slack et à la cantonade dans l'open space que voilà, on va faire un atelier sur tel sujet. Et l'atelier se passe et puis après on fait un compte-rendu. Mais il nous paraissait important de garder le fait que chacun puisse donner son avis sur l'architecture et ça ne suffisait pas. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a transformé notre rituel du jeudi après-midi où on faisait cet atelier de conception toutes les semaines. On l'a transformé en atelier de partage de la conception. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que les différents groupes de travail qui sont en activité à un moment donné, parce que bah, voilà, un groupe de travail il peut être actif pendant un certain temps, puis après il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités sur le sujet, donc il est en sommeil, puis il se réveille. Donc les groupes de travail qui sont actifs à un moment donné partagent avec le reste de l'équipe ce sur quoi ils ont travaillé pendant la semaine qui vient de se passer, les décisions qu'ils ont prises, pourquoi. À ce moment-là, le reste de l'équipe peut poser des questions, peut faire du feedback. Je comprends pas, moi j'aurais pas fait ça comme ça, je comprends pas comment vous allez faire ça. Et ça permet d'avoir un échange et éventuellement bah, de se dire c'est intéressant, il faut qu'on en reparle dans un autre atelier de conception. Voilà, mais au moins ça permet de continuer d'avoir un partage collectif de l'architecture, même si on ne conçoit pas tous les sujets, parce que c'était plus possible. Donc je trouve que c'est un bon exemple de notre façon de faire évoluer notre méthode en fonction de notre contexte, en fait. Et ça, c'est grâce aux rétrospectives qu'on le fait. Alors, là, je vais prendre une casquette plus de coach. Je voudrais partager avec vous un outil. Vous êtes peut-être dit. Waouh, ils ont le temps de faire 30% de temps de conception, plus ils ont le temps de documenter tous les ateliers qu'ils font. Enfin, moi, je ne pourrais jamais faire ça dans mon équipe, on ne me laisserait pas faire ça, c'est pas rentable. Si on fait ça, si on fait que ça, on n'avance pas assez vite, c'est pas possible. Alors, je vais vous parler du bus factor. Le bus factor, c'est un indicateur qui mesure la concentration d'informations au sein des individus d'une équipe. Concrètement, ça donne quoi? Le bus factor, c'est le nombre de personnes d'une équipe qui peuvent être écrasées par un bus sans que le projet soit en danger. Alors, écrasées par un bus ou démissionner ou se casser une jambe au ski et du coup ne pas être là pendant 2 mois. Chaque individu, en fait, même quand on a une propriété collective de l'architecture, a ses spécificités à travailler sur des sujets plus particulièrement, connaît mieux tel ou tel techno. Donc, forcément, il y a des connaissances qui ne sont pas partagées par tout le monde, en fait. Moi, je lutte contre l'idée que les développeurs sont des gens qui sont remplaçables les uns par les autres de façon indifférenciée. C'est pas vrai, en fait. Chacun a ses propres compétences. Et donc le bus factor, c'est ben, à partir de combien de personnes le projet est en grand danger. Alors ça veut dire quoi un projet en danger? Ben, c'est on a perdu une compétence clé et on n'est plus capable de travailler sur cette partie-là du projet, à moins de recruter quelqu'un de nouveau et ça prend du temps. En fait, c'est ce manque de savoir enfin, cette perte de savoir en fait qu'on a qui nuit au futur du projet. Alors, il y a une étude qui a été faite en 2015 sur 133 projets populaires de GitHub. Et en fait, alors je ne me rappelle plus exactement les stats, mais c'est en gros, on a demandé à ces projets leur bus factor à eux. Donc il y a à peu près un peu moins de, je crois que c'est 48% des projets qui ont répondu que leur bus facteur était de 1. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'une personne s'en aille pour que le projet meure. Une personne. Je sais pas, comme je vous disais, quelqu'un qui se cache une jambe au ski, un congé maternité, que sais-je, enfin voilà, une personne. Enfin, ça, voilà. Si ça tombe sur la mauvaise personne, le projet meurt. Il y a un peu plus du quart, je crois que c'était 28%, des projets qui ont répondu que leur bus factor était de 2. Donc en gros, moi ce que j'ai retenu, c'est 3 quarts des projets avaient un bus factor qui était inférieur ou égal à 2. La propriété collective de l'architecture, le partage des compétences, ça permet de monter ce bus factor. Et là, c'est un outil en fait pour expliquer à des managers que le bus factor, enfin, que c'est un risque en fait. C'est un risque qui peut avoir des conséquences dramatiques pour un projet, pour une équipe. Le projet peut mourir concrètement si on ne fait pas en sorte de prendre le temps de documenter, de partager, etc. Et c'est une façon de maîtriser un risque. Donc oui, ça a un coût, effectivement, mais c'est un coût qui en vaut la peine au regard des enjeux qu'on peut avoir sur le projet. Moi, j'aimerais que vous preniez quelques instants pour réfléchir dans votre équipe où vous êtes aujourd'hui, combien est votre bus factor?
Si on est là à la conférence, c'est que ça compte quand même.
Si tu es là pour un jour, enfin, ça veut dire que tu peux t'absenter un jour, mais ça veut pas forcément dire que s'il y a une autre, toi ou une autre personne de ton équipe qui d'un coup part pour une durée prolongée, voilà, oui, effectivement. Alors oui, le bus factor, c'est pas une question de je suis absente un jour, j'ai chopé la grippe, je suis pas là une semaine. C'est de façon inattendue, on perd quelqu'un de façon prolongée. Pas forcément définitive, mais prolongée en tout cas. Donc, est-ce que vous avez tous un peu en tête là quel est le bus facteur de votre équipe? J'aimerais que les personnes dont le bus facteur de l'équipe est 1 se lèvent, s'il vous plaît. Ok, je dirais à vue de nez, il y a à peu près un quart des personnes qui sont levées. Et ceux dont le bus facteur est de 2? Ok, vous faites un peu mieux que ces projets qu'on a vus sur GitHub. Alors, en tout, à peu près, je pense que là, on est arrivé à peu près la moitié de la salle qui s'est levée sur une des deux réponses. Voilà, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous servir de cet outil du bus factor pour expliquer que oui, c'est important de prendre le temps de partager les connaissances dans l'équipe. Et il faut que j'accélère en fait. Alors. Dans une équipe projet classique, enfin là j'ai pris une équipe agile avec un product owner, un scrum master, un développeur de la technoa, par exemple un développeur base de données, un développeur IHM, un développeur API, enfin je sais pas, un QA, enfin un testeur, voilà, où on a des membres d'équipe qui ont un domaine de compétences spécifique, ont une expertise, et donc du coup ça définit leurs responsabilités. Et en fait, ben, quand il y a un but qui se pointe, on imagine bien que voilà, ça se casse la figure. Nous, notre façon de nous organiser, en fait, elle est assez différente. On a effectivement dans l'équipe chacun des préférences et des facilités sur certains sujets, mais on n'a pas vraiment d'étiquette. Enfin, si on a des étiquettes officielles, moi par exemple, je suis officiellement product owner. Mais comme je vous disais, j'ai un background, enfin j'ai fait une école d'ingénieur, l'architecture je comprends, pour moi c'est un peu comme l'italien, je le comprends mais je le parle pas. Et du coup, ben, moi par exemple, je participe aux ateliers de conception et des fois même je trouve des solutions en fait. Et inversement, comme je vous disais, toute l'équipe joue un peu le rôle de product owner. J'ai même un développeur qui surveille de façon très particulière le fait qu'il y ait toujours un stock suffisant de tâches à faire dans le next, c'est-à-dire que le backlog, parce qu'on n'est pas, on n'est pas en scrum, donc on n'a pas vraiment de sprint, mais que les prochaines tâches, c'est toujours alimenté en fait. Et quand il trouve que c'est trop bas, il me dit, il faut qu'on fasse quelque chose, on n'a pas assez de prochaines tâches. Donc voilà, on a vraiment une responsabilité qui est partagée sur tout. Et du coup, on s'auto-organise pour tenir tous les rôles qu'il est nécessaire de tenir. Et on peut le faire aussi parce qu'on partage les compétences et les connaissances. Et ce qui fait que du coup, on n'a plus des responsabilités, et voire une déresponsabilisation, mais on a une co-responsabilité dans l'équipe. Et là, si le bus il arrive, bah, en fait, c'est lui qui va reculer, quoi. Désolée pour la petite animation années 80. Là-dessus, moi, pareil, je suis revenue de congé maternité il y a 2 mois de ça, non, un peu plus, oui, c'est ça, 2 mois. J'ai été absente pendant 7 mois et j'ai pas été remplacée parce que, en fait, j'ai estimé, avec l'équipe, on a réfléchi ensemble, on s'est dit, ok, on est capable pendant une durée limitée. Alors, c'est pas prévu 7 mois à la base, hein. À la base, c'était prévu que 4, mais. Et la vie fait que des fois, on doit s'adapter plutôt que de suivre le plan. Donc on s'est rassemblés ensemble, on s'est rassemblés et on s'est dit, bah, ok, est-ce qu'on a besoin que tu sois remplacé? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en fait pour être autonome pendant que tu n'es pas là? Donc on a fait une liste un petit peu des activités que j'avais plutôt tendance à prendre moi pour voir comment l'équipe pouvait se les approprier et que j'ai le temps en fait de les accompagner pour qu'ils s'approprient ces choses-là. Et en fait, ça a plutôt bien fonctionné. Bon, quand je suis revenue, ça commençait à être un petit peu limite parce que bah, 7 mois, c'est long. Hein. Mais l'équipe a bien tenu, a continué de tenir ses objectifs. On m'avait posé la question une fois, tu n'as pas peur du coup que de plus avoir de boulot quand tu vas revenir si c'est ton équipe qui fait ces tâches-là? Alors, et d'une, déjà, s'ils font les tâches pendant que je ne suis pas là, ça ne veut pas forcément dire qu'ils aiment les faire. Et peut-être qu'ils seront bien contents, en fait, quand je vais revenir, de me les rendre. Donc voilà. Et puis, même si ce n'était pas le cas, eh ben, c'est chouette parce que du coup, ça me laissera plus de temps pour prendre plus de recul et faire d'autres choses. Par exemple, réfléchir d'une façon plus globale à l'organisation dans le cadre de la croissance de l'entreprise. On va vers encore plus de croissance, hein. C'est-à-dire que pour l'instant on est 12, mais on a des objectifs pour aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'il va falloir encore changer, etc. Et essayer d'anticiper un petit peu, voilà, ça peut me permettre d'avoir plus de temps pour faire ça. Et de fait, aujourd'hui, j'ai complètement repris ma place dans l'équipe à mon retour. L'équipe était contente que je revienne. Et j'ai aussi, enfin, malgré tout, ils ont fait évoluer des pratiques, ils les ont peut-être même simplifiées parce qu'ils ont amené un regard différent. Et du coup, j'ai plus de temps pour faire d'autres choses à côté aussi. Donc voilà, c'est vraiment positif pour toute l'équipe de travailler comme ça, vraiment en auto-organisation et en co-responsabilité en fait. Alors, du coup, c'est très important pour nous la dynamique d'équipe parce que comme vous voyez, dans toute notre façon de fonctionner, ça marche bien parce qu'on est une équipe soudée, parce que... Enfin, moi, l'équipe qu'on a, j'en suis hyper fière. J'ai jamais vu ça dans une équipe de développement. Il n'y a pas de concours d'ego. Il n'y a pas. En fait, on cherche tous à trouver les meilleures solutions ensemble. Il n'y a pas de. Je défends bec et ongles ma solution à moi. C'est pas que les développeurs sont tous en mode concours d'ego, hein. Mais ça arrive régulièrement que dans une équipe. Il y a une personne qui soit un peu comme ça. À une époque, le Real de Madrid, c'était un petit peu ça aussi. C'était, on embauche plein de stars et on n'arrive pas à les faire bosser ensemble. Donc, l'importance d'une équipe où les gens sont humbles et à l'écoute des autres, voilà, c'est ce qui fait aussi la force de notre équipe. Et je sais qu'on a de la chance d'avoir cette équipe-là. Mais en fait, du coup, les moments compliqués, enfin les moments à risque pour une équipe comme ça, c'est les moments de recrutement, les moments où on grandit. Jérôme Avoustin qui m'a dit une fois, une équipe c'est immutable. C'est-à-dire que quand on change quelque chose dedans, en fait c'est pas la même équipe. Quand on rajoute ou quand on enlève une personne, ce n'est pas la même équipe. Donc effectivement, quand il y a un nouvel arrivant, c'est un risque. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, hein, c'est juste qu'il faut faire attention. Et des fois, il y a des erreurs de casting. Alors, une erreur de casting, c'est quoi ? Ça va être quelqu'un dont on a mal évalué les compétences, l'incompétence en entretien. C'est quelqu'un qui ne va pas partager nos valeurs. C'est quelqu'un qui va mettre en péril notre dynamique d'équipe. Voilà, ça peut arriver. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec des erreurs de casting. Enfin, ça vous parle ? Ceux qui ont déjà travaillé avec des erreurs de casting, levez-vous. Soyez pas timide. Ok, alors là, je pense qu'on est au moins à la moitié, si ce n'est pas les trois quarts de la salle. Ça arrive, c'est normal. En phase de recrutement, c'est un petit peu comme la période des premiers rendez-vous avec son chéri. Enfin, on essaye de se montrer sous son meilleur jour. Et puis, bah, des fois, ça marche, quoi. Et donc, c'est normal. Et nous, ça nous est arrivé à nous aussi. Parce que l'idée, c'est pas que je vous raconte que des choses qui marchent bien. Enfin, on a un projet normal aussi. Hein. On a des difficultés parfois. C'était au début en fait du projet. Ça faisait un mois et demi que j'étais arrivée, donc j'étais pas encore inclus dans le process de recrutement. On utilisait encore un process un peu générique de l'entreprise. Et donc, on était en train de travailler et il y a notre CTO qui arrive et qui nous, avec une personne que je vais appeler Voldemort pour maintenir son anonymat. Donc il nous dit, bah voilà, c'est Voldemort et dans 3 mois, il nous rejoint. Ok, cool, super, on était contents parce qu'en fait, on essayait de recruter depuis un petit moment, mais c'était compliqué à ce moment-là parce que, comme je vous disais, on était un peu en vase clos au début du projet. On voulait garder le côté innovant de notre produit, on voulait avancer suffisamment pour garder notre côté innovant et donc on ne pouvait pas communiquer sur ce qu'on faisait. Donc c'est hyper compliqué de convaincre des bons développeurs de venir bosser pour nous en leur disant « on te promet que c'est génial ce qu'on va faire, mais on ne peut pas t'en parler ». Enfin, dans une annonce en tout cas, on peut pas faire ça. Ça, c'est très compliqué et du coup, on n'avait pas de candidat. Donc, quand on en avait un, voilà, on était content. Donc, voilà, en l'occurrence, cette personne-là devait arriver. Et en fait, on avait eu un cas d'une personne qui devait arriver avant ça et qui avait changé d'avis entre-temps, qui avait trouvé autre chose ailleurs. Et donc, on était un petit peu... On s'est dit, il faut qu'on fasse un truc pour s'assurer vraiment que Voldemort vienne, quoi. Donc, on l'a invité à un apéro et donc notre CTO nous a dit essayez de le séduire un petit peu, quoi. Enfin, en tout bien tout honneur, hein, séduisez-le avec la technique, etc. Enfin, mettez-lui des étoiles dans les yeux. Donc, ce qu'on a fait. 3 mois plus tard, donc, Voldemort arrive. Et puis, au bout de quelques semaines, moi, je commence à sentir des perturbations dans la force. C'est des trucs que... Alors, je suis très intuitive, ça passe beaucoup par le ressenti, mais par exemple, j'ai des développeurs qui se mettent à avoir leur casque sur les oreilles toute la journée, comme ce n'était pas le cas avant. Dans les rétrospectives, la parole est moins libérée. Et d'ailleurs, elles sont un peu tendues, les rétros. Il y a moins de bienveillance dans l'équipe. C'est des trucs qui m'alertent un petit peu. Mais c'était un ressenti, c'était mon ressenti à moi. J'avais aussi un petit peu des doutes sur le niveau technique de la personne. Parce que, comme je vous disais, moi j'ai un background technique et il y avait des moments dans les ateliers de conception, ces propositions, ça me paraissait lunaire, quoi. Et je me suis dit, bon, d'un autre côté, moi je ne suis pas développeur, alors peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Je suis allée voir notre CTO et je lui ai dit, voilà, je t'avoue que j'ai un doute sur Voldemort. C'est bizarre ce qui se passe, voilà, et je lui explique tout ça. Il me dit « Ah ben, en fait, pour le niveau technique, je peux pas trop dire, parce que le jour où on a fait l'entretien de recrutement, au bout de 10 minutes, j'ai été appelée sur un truc urgent, donc je suis restée que 10 minutes avec lui. » D'accord. Et il m'a dit « Mais je t'avoue que je me suis doutée quand même que ça allait être un challenge au niveau de la communication, cette personne-là, ça allait être un challenge de l'intégrer, en fait. Ah bon ? Et pourquoi tu me l'as pas dit avant, en fait ? Enfin, pour que... C'est pas pour qu'on n'essaye pas, hein, mais pour qu'on encadre un peu plus la personne, qu'on l'accompagne mieux pour l'aider à s'intégrer dans l'équipe et puis qu'on valide certaines choses. Que si tu avais un doute sur le niveau technique, on aurait pu valider, éventuellement proposer de la formation ou autre, quoi. Ce débrief, en fait, ça nous a permis de modifier notre processus de recrutement, je vais vous en parler. Et aussi, donc, en ce qui concerne Voldemort, on a commencé par faire un point. Alors, avec l'accord du manager, j'ai fait un point avec l'équipe pour vérifier que mon ressenti n'était pas que le mien. Donc, j'ai demandé aux gens ce qu'ils pensaient de Voldemort. Et là, quand j'ai posé la question, j'ai vu du soulagement dans les yeux des collaborateurs. Enfin, moi, je les ai pris un par un, j'ai pas fait ça en mode jury non plus. Enfin, j'étais pas à Salem en train de vouloir brûler une sorcière, c'était pas l'idée. Les gens m'ont dit « Ah, mais je suis pas le seul à penser ça !» En fait, c'est compliqué dans une équipe d'être le salaud qui va dire « Mais cette personne-là, elle est nulle, en fait. » C'est compliqué d'être le premier qui va parler. Mais il faut le faire à un moment, parce que sinon, ben, la période d'essai se termine, et puis ben, c'est foutu, quoi. Donc c'est important de le faire. Et il y a des moments, ben, il faut prendre le rôle du salaud, pour le bien de l'équipe. Donc cette personne-là, on lui a fait du feedback dans un entretien RH, on a mis en place du mentoring, qui ne s'est pas bien passé, et on a fini par se séparer de lui, plus ou moins d'un commun accord. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, ça nous a permis d'apprendre sur notre process de recrutement. Et pour nous, en fait, l'intégration dans l'équipe, ça commence dès le recrutement. Et le recrutement, c'est l'affaire de toute l'équipe. Comme dans la plupart des recrutements, on a un entretien RH, mais auquel maintenant, moi, je participe. L'objectif, au-delà de la compréhension du poste, c'est de s'assurer qu'on partage les mêmes valeurs. En tout cas, d'essayer de faire en sorte de s'assurer qu'on partage les mêmes valeurs. Parce que c'est compliqué hein, d'évaluer quelqu'un sur des valeurs dans un entretien d'une heure. C'est compliqué. Chacun va trouver un peu ses façons de faire. Moi, il y a des questions que j'aime bien poser pour voir ça. C'est quoi ton meilleur souvenir de boulot ? En fait, on apprend beaucoup d'une personne, dans le cadre du travail, hein, par rapport à ce qui va lui paraître important dans sa vie au boulot, ce qui va être un succès pour lui. Si sa meilleure réussite, c'est une réussite où en fait il est arrivé à faire un truc super difficile tout seul, ben voilà, ça va nous en apprendre beaucoup sur cette personne-là. Si c'est une personne qui va être contente, qui aura été contente parce que dans un moment d'équipe fort, par exemple, une réussite collective, ça aussi, ça apprend beaucoup. Je ne dis pas qu'il y a des bonnes et des mauvaises réponses. Hein. Après, c'est à vous de voir si ça va avec vos systèmes de valeurs, avec le reste des facteurs, les facteurs de motivation du reste de l'équipe. Est-ce que ça colle, est-ce que ça ne colle pas et voilà, mais c'est le genre de question qui peut aider. Une autre question que j'aime bien poser, c'est sur les erreurs que la personne a pu rencontrer. Et qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils feraient différemment aujourd'hui ? On apprend beaucoup aussi sur... parce que pour moi, le droit à l'erreur, c'est quelque chose de très important. Et il faut se le donner aussi à soi-même. Il faut se le donner à condition de tirer des leçons de ses erreurs, histoire de ne pas les perpétuer. Une personne qui est déjà à l'aise pour me parler d'une de ses erreurs, elle me dit d'elle-même, ça m'a appris ça. Pour moi, ça a énormément de valeur. Et du coup, je me dis, il y a un match sur des choses essentielles avec nous. Donc, un entretien sur les valeurs. Toute l'équipe prépare l'entretien technique, en fait. C'est-à-dire que toute l'équipe reçoit le CV, va voir le GitHub de la personne, etc. Et ça va permettre de préparer des questions plus pointues pour notre CTO qui, lui, va faire l'entretien technique. Donc, le CTO fait l'entretien technique. Éventuellement, il demande à un ou deux développeurs de l'accompagner en fonction du profil du candidat pour pouvoir poser des questions plus pointues. Et on fait une rencontre avec toute l'équipe aussi. Donc, on se met devant le tableau blanc et puis on explique à la personne l'architecture en fait de Quzzle. Et il peut poser des questions et du coup, ça permet d'avoir un échange. Au début, c'est un petit peu formel. Puis, en fait, l'intérêt du sujet, on parle de développeur là. Quand on présente de l'architecture, il y a forcément des questions qui ressortent et la parole se libère. Et ça permet de voir si on est à l'aise pour discuter technique ensemble. En fait, c'est un peu une répétition de nos futurs ateliers de conception avec cette personne. Et on voit si ça se passe bien ou pas, tant pour lui que pour nous d'ailleurs, hein, parce qu'on sait qu'on a une façon un peu particulière de travailler et peut-être qu'il y a des gens à qui ça ne conviendrait pas. Donc ça, c'est totalement acceptable. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, on va prendre une bière avec la personne, on fait un apéro. Et cette fois-ci, on prend du feedback en fait de l'équipe sur OK, vous avez pensé quoi de cette personne ? Comme l'équipe rencontre la personne pendant le process de recrutement, là, on demande à toute l'équipe, et pas seulement le CTO qui va donner son avis, vous en pensez quoi ? Et si le match se fait, c'est-à-dire si nous, on est séduit et que la personne en face est séduite, donc quand la personne arrive, on travaille tous ensemble à l'intégration de la personne. Donc déjà, on s'est créé une checklist nouvel arrivant de façon à donner aux nouveaux arrivants tous les moyens de travailler. De la création de compte au partage des mots de passe, etc. Oui. On fait un atelier d'architecture au tableau. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, on fait pour présenter l'architecture au nouvel arrivant. C'est l'arrivant précédent qui le présente et tout le monde et il peut poser des questions. On le guide dans le choix des premières tâches en lui posant des questions. Est-ce qu'il préfère binômer avec quelqu'un, est-ce qu'il préfère travailler tout seul avec quelqu'un qui va être plutôt en mentor, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel il se sentirait plus à l'aise pour commencer. Donc voilà, on essaye de le guider et de se rendre disponible pour l'aider à être opérationnel le plus tôt possible. Et puis ouais, on va boire des coups ensemble parce que ça soulève une équipe, on fait un apéro toutes les deux semaines dans l'équipe et c'est bien et ça fait 2 ans que ça dure et on en fait même plus souvent en général, mais on a au moins toutes les 2 semaines. Et du coup, moi, ça m'a appris quelque chose. Il y a une valeur que je trouve qu'on oublie souvent quand on parle des valeurs agiles, ou peut-être que je l'avais mal comprise avant cet épisode-là, c'est le courage. Le courage qui est important pour... Le courage d'être un salaud, parfois, c'est de dire les problèmes, en fait. C'est une responsabilité qu'on a vis-à-vis de son équipe quand on voit un problème, d'aller faire un feedback soit à une personne, soit de le dire à tout le monde. Et il y a un courage qui est presque encore plus important, c'est le courage managérial. Cette personne qui nuisait à notre dynamique d'équipe, il a fallu aller défendre en fait auprès des RH que non, ça valait pas le coup d'attendre la fin de la période d'essai. C'était en fait chaque jour qu'il passait avec nous était un danger pour l'équipe et donc il fallait s'en séparer plus vite. C'est du courage managérial de dire laisser l'équipe s'auto-organiser. Ça fonctionne comme ça et mettez vos peurs de côté et ça marche, ça devrait vous suffire. Et moi j'ai de la chance parce que mon manager il a ce courage managérial et je me rends compte en fait maintenant que c'est indispensable pour pouvoir avoir une agilité qui est pérenne. Si on n'a pas ce courage managérial, si à la moindre bourrasque on plie et on revient aux vieilles habitudes, à ce moment-là on perd son agilité. Alors, ça va être une redite pour toi. Je vais finir avec ce grand philosophe du 9e siècle, Perceval, dans Camelot. Nous aujourd'hui, en fait, on a su grandir harmonieusement, alors que notre équipe a grandi très vite. Et ça, c'est parce que en fait, on partage un socle de valeurs communes qui sont, on pourrait dire, c'est des valeurs de l'agilité. Donc, il y a l'amélioration continue, l'auto-organisation, la co-construction, la collaboration, la communication, la transparence, la bienveillance, la confiance, le droit à l'erreur, l'intelligence collective. C'est des choses qui sont dans notre ADN, qui sont très importantes pour nous. Et du coup, en fait, l'organisation de Kuddle va beaucoup grandir encore. Pour vous dire, on parle de faire à peu près, enfin, de multiplier encore notre taille par 4, 5 dans les 4-5 années à venir. Donc ça va être vraiment de la croissance rapide. Et en fait, ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur d'un point de vue de l'organisation. Je pense qu'on va arriver en fait à trouver notre façon à nous de grandir en restant agile parce qu'on a tout ce qu'il faut dans notre ADN pour construire ensemble ces nouvelles façons de travailler dont on aura besoin, ces nouvelles façons de nous organiser. Et ça, c'est parce qu'en fait, on partage des valeurs communes et que l'important, c'est les valeurs. Et je vous remercie. Et si vous avez... Je ne suis pas sûre qu'on ait temps pour des questions, si vous voulez. S'il y a des questions, sinon, si vous avez des feedbacks, je vous ai mis mon mail. Et voilà. J'ai du mal à être malade, mais merci. Thank you. ne sais pas s'il y a des questions. Oui.
L'entretien technique, il consiste uniquement en des questions-réponses sur les sujets techniques ou des exercices, du travail, du codage ?
Il n'y a pas du codage, en fait, enfin en général. Quand on a eu accès au repository GitHub de la personne, bah, par exemple, on peut voir le type de qualité de code qu'il produit. Donc déjà, ça aide. Après, notre CTO, en fait, a pas mal de bouteilles et arrive par... En fait, ce qu'il teste plus, c'est la curiosité et la capacité à apprendre de nouvelles technos la performance, le fait de connaître sur le bout des doigts telle spécification, telle, enfin voilà. Donc, effectivement, il n'y a pas de test de codage. Par contre, il y a cet atelier de conception un peu au tableau ensemble. Et pour l'instant, à part cet épisode un peu malheureux, ça n'a jamais vraiment posé problème en fait. Au contraire, on est arrivé à avoir une équipe qui a un niveau je trouve, enfin, moi, en étant un peu plus en recul par rapport aux autres développeurs, par rapport aux... je le vois, on a un niveau qui est assez impressionnant, en fait, dans l'équipe, et donc ça fonctionne bien.